L'heure pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Édouard Philippe prononcera cet après-midi sa deuxième déclaration de politique générale dès hier soir. Emmanuel Macron, lui, a déjà pris soin de dresser le tableau à son Premier ministre, sorte de triptyque que l'on pourrait résumer ainsi. Pas de réduction s'agissant des ambitions économiques, mais une accélération en revanche des aspirations et préoccupations à la fois environnementales et sociales.
Les chiffres de l'emploi publiés par l'INSEE ce matin attestent d'une création nette de postes en hausse de 0,4% au premier trimestre 2019.
Et pour évoquer toutes ces questions liées à l'actualité française, invité de la rédaction au début de ce journal, Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OMS.
Depuis ce matin, des dizaines de milliers de manifestants sont à nouveau dans la rue à Hong Kong pour refuser un projet visant à autoriser les extraditions vers la Chine, Thomas.
De violents affrontements ont notamment opposé des policiers tentant d'empêcher des protestataires de faire irruption dans le parlement de la ville. Nous irons également en Russie où la police russe a annoncé hier l'abandon des poursuites à l'encontre du journaliste d'investigation Ivan Golunov. Un recul rarissime qui n'aura pas empêché les autorités d'arrêter ce matin une centaine d'opposants, dont Alexei Navalny. Et enfin, nous acterons la fin d'un procès historique en Espagne, celui de 12 indépendantistes catalans, et ce après 4 mois d'audience à la fois largement médiatisée, mais aussi politiquement extrêmement sensible. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Eh bien, nous irons en banlieue parisienne, au-delà du périphérique, pardon, je vais y arriver, avec notre invitée, la sociologue Marie-Hélène Baquet. Elle a refait 30 ans après le voyage qu'avait fait l'écrivain François Maspero en RER, le RERB, pour voir ce qui se passe. Quels sont les effets de 30 ans de politique de la ville? Qu'est-ce qui a changé?
Merci et à tout à l'heure. Point de départ souhaité d'un acte 2 du quinquennat Macron et après plus de 7 mois de césure entre Gilets jaunes et grand débat national, sans oublier les élections européennes, Édouard Philippe prononcera cet après-midi sa deuxième déclaration de politique générale. Outre des précisions sur la baisse de l'impôt, sur le revenu, mais aussi le calendrier parlementaire jusqu'aux prochaines municipales, le Premier ministre devrait notamment y détailler les réformes délicates à venir, qu'il s'agisse de l'assurance chômage ou des retraites. Son discours sera par ailleurs certainement suivi comme un premier test de la conversion écologique de l'exécutif. Voilà pour le fond. Sur la forme, Édouard Philippe prendra la parole à 15h devant l'hémicycle avant une intervention de chaque groupe politique, puis une réponse du chef du gouvernement et enfin le vote de confiance de l'Assemblée prévu en début de soirée. Sur ce dernier point, le Premier ministre et chef incontestable de la majorité n'affrontera en réalité qu'un risque de démission purement théorique compte tenu de la prééminence du groupe LREM, mais aussi le ralliement à la Macronie en début de semaine de plusieurs élus de droite et du centre. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors précisons que lors de son premier discours de politique générale, l'exercice avait eu lieu au lendemain d'un grand discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès. Cette fois-ci, Édouard Philippe sera seul en scène, le chef de l'État ayant finalement renoncé à réunir les parlementaires à Versailles cet été, sauf que la scène 1 de cet acte 2 aura tout de même été précédée hier par une intervention du premier démarcheur en chef, le président.
Et oui, Emmanuel Macron a du mal à déléguer, en tout cas complètement. Certes, il laisse les rênes à son premier ministre cet après-midi, sans avoir fait ce discours devant le Congrès, mais quand même, le président plante le décor, dessine le cadre. Il était hier soir l'invité de la RTS en Suisse.
Il y a une souffrance qui s'est exprimée, il y a parfois des excès qui se sont aussi exprimés, je ne les confonds pas. Mais face à cette souffrance, moi je veux remettre de l'humanité, de la proximité, donc c'est un changement de méthode que j'ai dessiné. Pas de réduction de notre ambition sur le plan économique, une accélération de notre ambition environnementale et écologique, une accélération de notre préoccupation sociale. Je pense que là où nous n'avons peut-être pas été assez rapides, on a moins montré de résultats, c'est dans notre capacité à apporter une réponse qui pour moi se tient dans ce triptyque, produire, tenir justement notre réponse à la question environnementale et apporter une réponse à la question sociale.
Comme promis, on maintient le cap, mais on lui donne une touche sociale et environnementale qui lui manquait peut-être, et ça ne manquera pas d'être scruté par l'opposition comme par la majorité. L'aile gauche de La République En Marche attend de vrais signaux. Sur la PMA, par exemple, la procréation médicalement assistée, elle espère l'avoir inscrite à l'agenda avant la fin de l'année. Sur la réforme du chômage, elle souhaite quelque chose de pas trop violent, de pas strictement budgétaire. Et sur l'écologie, enfin, l'aile gauche veut de véritables engagements transversaux, que la question verte imprègne l'ensemble des projets et des chantiers à venir.
Merci Rosalie Lafarge. Et pour continuer d'évoquer les sujets sur lesquels Édouard Philippe devrait donc apporter des précisions, qu'il s'agisse de la nouvelle assurance chômage ou du calcul des retraites, invité de la rédaction aujourd'hui, Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE et ancien conseiller économique d'Arnaud Montebourg. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Une première question, Monsieur Plane. Ce matin, on a appris que l'emploi salarié en France avait progressé de 0,4% au premier trimestre 2019. Le secteur privé a enregistré 92 800 créations nettes de postes, 1000 dans la fonction publique. Ce trimestre constitue le 16e consécutif de hausse d'emploi salarié. Que faut-il en déduire sur l'état de l'économie et plus particulièrement du marché du travail en France? Et en l'occurrence, faut-il y voir un effet de la loi travail entrée en vigueur le 1er janvier 2017?
Tout d'abord, ça veut dire quand même que l'économie française se porte plutôt bien. C'est vrai que les chiffres, ces chiffres qui ont été révisés d'ailleurs, parce qu'il y a eu une première version qui a été donnée il y a quelques semaines, sont vraiment dynamiques. C'est-à-dire qu'on est proche des 100 000 sur le trimestre. C'est le deuxième meilleur chiffre depuis 2008. Donc on est à une vraie dynamique du côté des créations d'emplois. Même on peut dire qu'on regarde la croissance, on est même sur quelque chose qui est plus fort que prévu. Alors il y a plusieurs effets. Soit effectivement on a une reprise aujourd'hui qui se matérialise. Finalement, quand nos partenaires commerciaux vont pas très bien, finalement l'économie française s'en sort plutôt bien. Et ça, c'est le point positif. Et puis le deuxième point, c'est peut-être que la loi de travail, en tout cas, a des effets. Les effets pourraient être aussi le fait qu'aujourd'hui on a des intentions d'embauche, notamment en CDI, qui ont augmenté. Donc on est dans quelque chose qui est assez intéressant et surtout est à mettre en confrontation avec les difficultés de recrutement. On voit qu'aujourd'hui les difficultés de recrutement sont élevées, mais malgré tout, c'est pas un frein direct aux créations d'emplois comme on peut le voir.
Alors,
question d'Anne-Laure Chouin.
Mathieu Plane, est-ce que la conjoncture économique française est telle que le gouvernement peut se permettre en quelque sorte d'annoncer ce qu'il devrait faire cet après-midi, une baisse de 5 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire une baisse des impôts sur le revenu des classes moyennes?
Alors, non, de toute façon, l'engagement a été pris d'une baisse de l'impôt sur le revenu. Maintenant, on n'a pas le détail de la mesure et savoir exactement quels seront les ménages ciblés. Hein. Bien sûr, une fois de plus, on parle des personnes qui sont assez jutées à l'impôt sur le revenu. Donc, on devrait avoir un peu plus d'informations. La question qui va se poser pour la suite du quinquennat, c'est plutôt sur des questions budgétaires. On le voit notamment sur les retraites, sur l'assurance chômage. On voit qu'il y a eu des engagements forts qui ont été pris à travers les mesures d'urgence. C'est plus de 10 milliards. À ça s'ajoute effectivement l'impôt sur le revenu de 5 milliards en 2020, plus la réindexation de certaines retraites. Donc,
comment on finance tout ça?
Voilà, la question qui va se poser pour la suite, c'est est-ce que finalement, dans un scénario de croissance finalement qui tient en France, mais qui est quand même un peu plus mou que ce qui était prévu encore l'année dernière, comment finalement la trajectoire des déficits va être tenue? Est-ce qu'il y a des renoncements de ce côté-là? Ou au contraire, il y aura de nouvelles pistes d'économies à attendre? Mais la question, c'est comment on fait des économies sans dégrader la question sociale, surtout quand on parle d'assurance chômage ou de retraite?
Alors pour le coup, le gouvernement a des idées, notamment à travers la réforme des retraites. Est-ce que, là encore on attend les détails, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une réforme des retraites et ce passage d'un système à points peut être vecteur de beaucoup d'économies pour les années à venir?
C'est tout le jeu d'équilibriste, c'est-à-dire que on voit bien que cette réforme-là a été présentée comme une réforme structurelle, c'est-à-dire en gros de simplification du système de retraite, d'unification des différents régimes, et qui n'est pas vue comme une question budgétaire. Or aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit à travers notamment les nouvelles projections du Conseil d'orientation des retraites, les déficits en tout cas ne seront pas comblés dans les années à venir, et donc la question budgétaire va être sur la table, sauf que comment faire accepter une réforme des retraites si elle crée des perdants. Donc on voit bien qu'il y a un jeu qui va être compliqué à mettre en avant. C'est vrai que du coup, est-ce qu'il faut bien le traiter de façon différente entre d'un côté budgétaire et financier et de l'autre côté qui est une réforme d'un régime à points et donc un transfert vers un nouveau type de système. Si on voit comme une question budgétaire, je pense qu'elle sera assez mal acceptée.
Et alors justement sur cette réforme, on parle beaucoup de l'âge légal, l'âge pivot, 62, 64 ans. On parle un peu moins de justement la transformation en système à points et toute la question c'est quelle va être la valeur de ce point. Est-ce que là-dessus, vous en savez plus et est-ce qu'effectivement on se pose les bonnes questions?
Non, alors il y a plusieurs choses. C'est effectivement, vous posez la bonne question, c'est quelle est la valeur du point. C'est vrai que il y avait cette idée de dire un euro cotisé doit rapporter les mêmes droits. On voit qu'en fait c'est pas aussi simple que ça parce que on voit pour les par exemple la question comment on intègre les enfants, notamment pour les femmes, comment on fait pour les carrières plus courtes ou les personnes qui ont travaillé plus jeunes. Donc c'est vrai que tous ces enjeux là qui aujourd'hui font qu'on a un système assez complexe, hein, mais finalement, on peut voir aussi des formes d'équité derrière ça. Comment ça va se traduire à travers la valeur du point? Et donc, c'est comme ça que doit être déclinée la réforme. On va essayer de comprendre tout ça, sachant que, bien sûr, il y a tous les régimes spéciaux derrière ça. Et donc, il va y avoir quand même des modifications assez substantielles. Et surtout, c'est comment on fait pour passer d'un régime tel qu'on le connaît, de répartition tel qu'on connaît actuellement, à un régime par points, sachant que ça peut prendre une génération, en fait, hein, cette transformation-là, et donc pour avoir des résultats plus rapides. Et sachant que, comme vous l'avez soulevé, derrière, il y a des enjeux budgétaires, donc c'est vrai qu'il y a un mikado un peu complexe.
Merci Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Anne-Laure Chouin. Plus de 6 mois après l'arrestation de son ancien patron emblématique pour des malversations présumées, c'est peu de dire que l'affaire Carlos Ghosn aura coûté cher aux actionnaires de Renault. L'action du constructeur français évolue aujourd'hui à ses plus bas niveaux. En un an, le titre a perdu un tiers de sa valeur. Autant dire que l'Assemblée Générale des Actionnaires cet après-midi s'annonce animée en pleine crise, qui plus est de l'alliance avec Nissan et après l'annulation d'un projet de mariage avec Fiat Chrysler. Comme en écho à l'immense mouvement pro-démocratie qui avait paralysé des quartiers entiers de la mégapole à l'automne 2014, des milliers de manifestants ont envahi depuis hier soir les principales voies de circulation du centre-ville de Hong Kong, où quand la contestation se radicalise face à l'intransigeance des autorités. Ce matin, les protestataires vêtus de noir se sont mis à encercler les bâtiments du gouvernement en érigeant des barricades à l'aide notamment de barrières métalliques, en dépit de rangées de policiers anti-émeutes déployés pour l'occasion, lesquels n'ont d'ailleurs pas hésité à faire usage de la force quand certains manifestants les chargeaient avec des parapluies, symbole du mouvement Occupy. Une mobilisation spectaculaire donc, destinée à protester une nouvelle fois contre le projet de loi controversé du gouvernement censé faciliter les extraditions de suspects en Chine afin qu'ils y soient jugés. Alors initialement, un nouveau débat organisé autour de ce texte était prévu aujourd'hui, mais face à ces manifestations, eh bien le gouvernement a finalement décidé de reporter l'examen de ce projet de loi à une date ultérieure. Pour autant, la chef du gouvernement local, elle, a rejeté toute éventualité de retirer son texte. Dominique André, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Pékin. Alors, s'agissant de ce projet de loi, lorsque les autorités de Hong Kong disent aujourd'hui vouloir combler un vide juridique et faire que la ville ne soit plus un asile pour certains criminels, eh bien nombre de Hongkongais, eux, ne croient plus aux promesses de leur exécutif et ils se méfient plus encore, sans doute d'ailleurs, des intentions du gouvernement chinois.
Oui, effectivement, les manifestants n'ont pas confiance dans le gouvernement local de Carrie Lam, qu'ils considèrent comme étant aux ordres de Pékin, et ils se méfient encore plus des intentions du gouvernement chinois. En fait, Pékin a beau répéter, respecter le principe « un pays, deux systèmes », c'est-à-dire l'accord de 1997 sur la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine, les manifestants dénoncent les atteintes au statut spécial de Hong Kong. Les organisations de défense des droits de l'homme et les avocats hongkongais qui ont manifesté eux aussi la semaine dernière mentionnent notamment le système juridique en vigueur en Chine continentale. Ils citent la torture, les détentions arbitraires, les disparitions, les aveux sous la contrainte et puis les difficultés que les personnes arrêtées ont en Chine pour avoir accès à un avocat. Alors le ministère des Affaires étrangères à Pékin a réagi. Il considère que la majorité silencieuse de Hong Kong est opposée aux manifestations, mais la manifestation de dimanche dernier, on l'a vu, a rassemblé 1 million de Hongkongais, soit 1 Hongkongais sur 7. On peut donc voir que l'opposition à ce projet de loi rassemble un large spectre de la société hongkongaise. Il n'y a pas seulement des étudiants, des défenseurs de la démocratie et des avocats, mais aussi les milieux d'affaires, car Hong Kong est, on le sait, une plateforme financière internationale. Et puis, s'il y a les autorités religieuses, c'est donc comme une lame de fond qui semble revenir aujourd'hui. Et la police anti-émeute a été débordée.
Merci Dominique André en direct de Pékin. Après avoir réitéré la veille sa menace de taxer de nouveaux produits chinois si aucun accord n'est conclu au sommet du G20 fin juin au Japon, Donald Trump a de nouveau défendu hier le recours aux droits de douane dans sa stratégie commerciale. Les tarifs douaniers sont un super outil de négociation, a notamment tweeté le locataire de la Maison Blanche. De son côté, la Chine s'est contentée de promettre une réponse forte en cas de nouvelle escalade dans les relations entre les deux premières puissances économiques de la planète. Par ailleurs, Donald Trump, toujours lui, a annoncé avoir reçu une magnifique lettre du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Et ce, alors même que les négociations avec le régime reclus semblent pourtant dans l'impasse. Lors de la première rencontre entre les deux hommes, c'était il y a un an, jour pour jour, Pyongyang avait promis le démantèlement de son programme nucléaire. Or, depuis, aucun progrès n'a été réalisé. Enfin, toujours aux États-Unis, le président doit recevoir aujourd'hui son homologue polonais Donald Trump, qui pourrait à cette occasion annoncer le renforcement de la présence militaire américaine dans le pays voisin de la Russie. En septembre dernier, les autorités de Varsovie s'étaient dit prêtes à débourser au moins 2 milliards de dollars pour l'implantation d'une base militaire américaine sur son sol. Il faut dire que depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée, la Pologne se sent menacée par la Russie. Or, l'installation d'une base américaine sur son sol rendrait effectivement le pays inattaquable. En revanche, un tel déploiement pourrait non seulement créer des crispations au sein de l'OTAN, mais aussi aggraver encore les vives tensions entre l'Occident et la Russie. La Russie, justement, où la société civile et la communauté des journalistes ont remporté hier une rare victoire contre l'appareil répressif. À la surprise générale, le ministère de l'Intérieur a décidé d'abandonner toutes les poursuites contre un journaliste d'investigation accusé de trafic de drogue. Depuis le début de cette affaire, Ivan Golunov, 38 ans, affirmait que les stupéfiants découverts par les policiers avaient été placés à son insu en rétorsion à ses enquêtes. Et hier, donc, l'homme a fini par être libéré de sa résidence, surveillé, après que le gouvernement a annoncé la fin des poursuites pénales en l'absence de preuves. Plus surprenant encore, le ministère de l'Intérieur a également suspendu les policiers ayant mené l'enquête et limogé par ailleurs deux hauts responsables de la police à Moscou. Bref, une sanction rarissime qui fait suite à un recul non moins inédit de la part des autorités à la mesure d'une mobilisation elle-même exceptionnelle de la société civile. De quoi interpeller et s'interroger, la Russie de Vladimir Poutine aurait-elle changé? Ou dit autrement, y aura-t-il un avant et surtout un après Ivan Golunov? Élément de réponse avec notre correspondant à Moscou, Claude Brouillot.
Si l'on s'en tient aux premières déclarations de l'intéressé lui-même, l'affaire Golunov peut faire jurisprudence en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles des représentants d'un pouvoir local ont tenté de construire une machination pour éliminer un journaliste d'investigation. Que dit Ivan Golunov hier soir après sa libération ? « La réparation de mon préjudice moral sera que cela n'arrive à personne d'autre. » Et encore, j'ai hâte de reprendre mon travail d'enquête pour être digne de votre confiance. Pas question là de lancer une grande croisade à l'échelle nationale contre tous les types de corruption en Russie. La mobilisation, certes forte, mais locale essentiellement sur le cas Golunov, a fonctionné car elle n'a jamais été directement perçue comme anti-Poutine. À partir de là, le pouvoir central peut jouer les redresseurs de tort en coupant rapidement quelques têtes parmi ceux qui ont fauté. Et si des représentants des médias proches du pouvoir se sont joints à la presse indépendante pour demander eux aussi la libération d'Ivan Golunov, cela a d'abord été perçu ici comme un moyen opportun de se rapprocher de la condition de journaliste en Russie, pas davantage.
Et preuve que la libération hier d'Ivan Golunov est encore à relativiser dès ce matin lors d'une marche à Moscou en soutien aux journalistes autant que pour protester contre les agissements de la police. Eh bien, une centaine de manifestants ont été arrêtés, dont le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny. Que ce soit par des larmes de joie ou d'humiliation, albanaises et serbes du Kosovo gardent un souvenir vif de ce 12 mai 1999 lorsque les troupes de l'OTAN ont commencé à se déployer, mettant ainsi un terme à la guerre. Conséquence d'une résolution de l'ONU votée deux jours plus tôt et qui plaçait le Kosovo sous protection internationale, ce déploiement dont le 20e anniversaire est célébré aujourd'hui même marquait donc la fin de l'ultime guerre intercommunautaire dans l'ex-Yougoslavie et qui aura coûté la vie à plus de 13 000 personnes. Alors depuis, autant la défiance serbe est forte, autant la popularité des Occidentaux et notamment des Américains est immense parmi les Kosovars albanais et ils devraient d'ailleurs encore exprimer cette gratitude aujourd'hui à Pristina lors des cérémonies marquées notamment par la présence à la fois de l'ancien président américain Bill Clinton et de sa secrétaire d'État Madeleine Albright. C'est une correspondance à Belgrade signée Laurent Rouy.
Sans surprise, Belgrade n'a pas organisé de manifestation pour les 20 ans de l'entrée des militaires de l'OTAN au Kosovo. Pour les Albanais, ce jour est vécu comme une libération, mais pour les Serbes, ce jour marque la perte d'une région historique majeure de leur culture. La guerre avait fait 11 000 victimes albanaises, 2 000 Serbes et plusieurs centaines de victimes roms, mais elle avait été suivie d'un mouvement de population massif, puisque plus de 100 000 Serbes et Roms avaient dû fuir la vengeance et ne sont à ce jour pas revenus. À Pristina, les commémorations ont pris une tournure très officielle, avec invités de marque dont l'ancien président américain Bill Clinton ou Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État américaine, qui a appelé à une reconnaissance complète de la souveraineté du Kosovo. Seule commémoration tenue à Belgrade, celle discrète organisée avec les familles de victimes civiles du conflit ce lundi. Pour le secrétaire de la présidence de Serbie, Nikola Selaković, l'entrée de l'OTAN au Kosovo avait donné le signal de l'ouverture d'une chasse aux Serbes. Présent en permanence dans la rhétorique présidentielle et gouvernementale à Belgrade, le thème du Kosovo est surtout abordé en Serbie par le prisme des négociations moribondes entre les deux capitales sur le statut final. Les représentants serbes et kosovars devraient dans ce but rencontrer Emmanuel Macron et Angela Merkel début juillet. La rencontre pourrait pourtant ne pas avoir lieu, tant les positions des deux camps semblent irréconciliables.
C'est un procès historique qui doit s'achever aujourd'hui à Madrid, celui de 12 chefs indépendantistes catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017, comprenez l'organisation d'un référendum d'autodétermination interdit par la justice. Quand l'accusation parle d'une tentative de coup d'État, les indépendantistes dénoncent un procès politique de points de vue diamétralement opposés donc et qui reflète assez bien au fond le débat tout aussi polarisé hors de la Cour suprême s'agissant de cette question catalane, laquelle reste centrale aujourd'hui dans les débats politiques qui agitent toute l'Espagne. Pour preuve, pas plus tard qu'hier, le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sánchez, a entamé des tractations avec les partis pour être reconduit au pouvoir tout en cherchant à se passer du soutien des séparatistes catalans qui lui ont rendu la vie impossible. Depuis le début de ce procès, ce sont eux notamment qui ont précipité la convocation de législatives anticipées en avril dernier en rejetant le budget de l'État. Alors, quoi qu'il en soit, en l'absence de l'ex-président régional, Carles Puigdemont, lequel a fui en Belgique, et après 4 mois d'audience, les projecteurs sont donc braqués aujourd'hui sur ses compagnons de route, parmi lesquels Oriol Junqueras, l'ancien vice-président du gouvernement indépendantiste catalan, qui depuis sa cellule d'ailleurs n'aura jamais cessé son combat politique, parvenant même à se faire élire au Parlement espagnol et européen. Mathieu de Taillac, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de la Cour suprême espagnole à Madrid. Vous avez pu assister ce matin donc aux audiences et pour le moment, ce sont les avocats, Mathieu, qui présentent donc leurs conclusions.
Oui, les conclusions des avocats ont commencé hier et ce matin, 3 avocats ont pris la parole, 3 nouveaux avocats, et c'est le tour du 4e en ce moment. Alors chacun dispose d'une heure, c'est la dernière étape de ce long procès et on peut dire que la dynamique a changé parce que pendant 4 mois, c'était le processus indépendantiste dans son ensemble qui a été jugé, l'action conjointe du gouvernement régional, du Parlement catalan et des activistes était l'objet des questions posées aux témoins, les preuves, les vidéos notamment étaient utilisées par l'accusation et par la défense pour démontrer ou au contraire pour exclure l'existence de violences nécessaires pour pouvoir parler de rébellion, c'est le plus grave des délits qui leur est reproché. Mais ce matin, les avocats ont différencié au contraire l'attitude de chacun de leurs clients. L'avocate de Jordi Cuixart, par exemple, c'est le président de l'association indépendantiste Omnium, elle a rappelé que son client n'est pas un politique, elle considère qu'il s'est limité à exercer son droit à la manifestation. Un acte de protestation, en principe, ne constitue pas un acte de sédition, a-t-elle lancé. De son côté, l'avocate de l'ex-présidente du Parlement catalan a rappelé que cette dernière, Carme Forcadell, n'avait aucun pouvoir exécutif, qu'elle n'a pas organisé le référendum. L'avocate d'une ex-ministre régionale a indiqué qu'aucune dépense occasionnée par le scrutin n'a été imputée au département de sa cliente. Donc, les avocats disent que la défense est coordonnée. Ils veulent tous démonter les arguments de l'accusation, qui, disent-ils, n'ont pas vraiment écouté les témoignages et les preuves, puisqu'ils n'ont pas varié leur réquisitoire. Mais l'individualisation des stratégies donnait ce matin un côté un petit peu, sauf qui peut, à la Cour suprême. Et puis, cet après-midi, les accusés auront l'occasion de se défendre eux-mêmes en faisant usage de ce qu'on appelle le droit au dernier mot.
Merci Mathieu de Taillac en direct de Madrid. L'Union européenne a fait un pas de plus hier vers l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre l'Italie pour sanctionner l'accroissement de sa dette et ce en dépit donc des déclarations conciliantes à Rome où l'on espère encore éviter un engrenage pouvant conduire à des pénalités financières et à une défiance des marchés. Enfin, quand la Commission européenne rappelle à l'ordre le Royaume-Uni cette fois-ci, Londres devra honorer ses engagements financiers en cas de no deal, a rappelé ce matin l'exécutif européen après que Boris Johnson, un des favoris pour succéder à Theresa May comme chef du gouvernement, a menacé de ne pas payer la facture due à l'UE. Au Brésil, alors que les révélations sur la possible partialité des juges ayant condamné l'ex-président Lula pour corruption avaient motivé l'inscription à l'ordre du jour hier de l'examen de sa demande de libération, eh bien, la Cour suprême a finalement décidé de repousser au 25 juin le réexamen du cas Lula. On termine avec un mot de météo. Le ciel de cet après-midi sera encore bien couvert sur la majeure partie du pays, traversé par des averses fréquentes qui parfois pourront prendre un caractère orageux. Seul Paca et le Languedoc-Roussillon bénéficieront d'un temps ensoleillé malgré des passages temporaires de nuages d'altitude. Quant aux températures, elles s'échelonneront entre 15 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.